La connaissance est la base de toute chose. Est-ce que les épreuves que j'ai vues aujourd'hui, est-ce que les difficultés que j'ai connues dans le passé ou aujourd'hui ne peuvent pas être le résultat du fait que je ne connaissais pas réellement Dieu et que j'ai pris des décisions par rapport à mon cœur, par rapport à ce que je savais de moi-même? Le peuple d'Israël, un peuple bien connu, un peuple que Dieu avait l'attachement, Dieu n'a pas hésité de dire, eux, ils ne me connaissent pas. Ils sont dans le champ, ils font toutes sortes de choses, ils ne me connaissent pas. Et ils périssent à cause de ça. Parfois, on va se dire, on est chrétien, je suis chrétien, même si je fais des mauvais choix, je compte sur la fidélité de Dieu. Même si je fais des mauvais choix, Dieu est fidèle. Moi, je suis infidèle, Dieu est fidèle. C'est vrai, on est infidèle. C'est vrai, Dieu demeure fidèle. Mais à un moment donné, pour ne pas me répéter, ça devient des formes d'excuses pour ne pas associer Dieu dans des décisions que nous avons à prendre dans nos vies. De dire qu'aujourd'hui, la conséquence que je vis, la difficulté que je vis, c'est le fait que j'ai fait des mauvais choix. C'est le fait que je n'ai pas consulté Dieu. C'est le fait que je n'ai pas connu ce que Dieu voulait que je fasse. C'est le fait que je n'ai pas su c'est quoi la réaction que Dieu voulait que j'aille par rapport à cette situation. Le Seigneur finira par arriver. Nos yeux sont fixés vers quoi? Entre le jour où nous avons accepté Jésus et le ciel, le jour que Jésus reviendra. Paul dit, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. Il nous demande de considérer les choses d'en haut, parce que le chrétien aujourd'hui a des bonnes choses que Dieu lui a réservées. Pour répondre à la question, je disais, qu'est-ce que nous avons en haut qui peut nous motiver à considérer les choses d'en haut? J'aimerais qu'on lise dans Jean. Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le chrétien est cette personne qui a sa place réservée au ciel. Croyez-vous à cela? Pensez-vous que vous avez une place au ciel? Qu'est-ce qui peut être plus merveilleux que la place que Dieu a réservée à chacun de nous au ciel? Avec quoi on peut échanger ça? Il n'y a rien. Avec rien, on peut échanger cette grâce que nous avons de Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus, est allé nous préparer une place au ciel pour que là où il est, nous soyons avec lui. N'est-ce pas une bonne motivation pour avoir les yeux fixés au ciel? Le Seigneur nous a préparé une place au ciel. Et Paul dit, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Parce que nous avons notre place réservée au ciel. Et je dirais même, on a des frères qui nous ont précédés dans le ciel. Ça sera le fun de les revoir. Ça peut aussi être une motivation. On a des frères qui nous ont précédés dans le ciel. Ça peut encore être une motivation. Et l'Esprit de Dieu qui habite dans le chrétien aujourd'hui permet aux chrétiens de réaliser les bénédictions, de réaliser les réalités spirituelles de la parole de Dieu. Le chrétien aujourd'hui est cette personne qui est capable de dire « Oui, c'est vrai, j'ai une place dans le ciel. Pourquoi ?» Parce que Dieu a mis son esprit dans son cœur. Lorsque je lis la parole de Dieu, je crois à cette parole. Je me dis, oui, ce que Dieu dit, c'est vrai. Et ayant le Saint-Esprit en moi, je suis capable de dire, mais vu que j'ai ma place au ciel réservée, je sais où je m'en vais, mais regarde, c'est ça qui va motiver ma marche. Si j'ai des décisions à prendre sur terre, je vais les prendre avec Dieu. Pourquoi? Parce que je sais où je m'en vais. Comme on dit en bon québécois, on sait où on s'en va. Quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses tout croche. Il tourne en rond. Il ne sait pas où il s'en va. Il tourne en rond. Il fait des affaires tout croche. Est-ce que le chrétien ne sait pas où il s'en va? Nous, on sait où on s'en va. Bien au contraire, notre vie sur terre devait être motivée par ça. Le chrétien étant devenu vivant avec Christ est capable de comprendre les vérités, les réalités et les bénédictions spirituelles de Dieu. Il comprend même la volonté de Dieu. Toutes ces bénédictions constituent le privilège et les richesses disponibles pour tous les croyants dans le royaume céleste. Dieu a fait connaître les choses d'en haut par son Fils. Et par Jésus, on a su ce qu'on avait en haut. Par Jésus, on a su c'était quoi la volonté de Dieu. Le chrétien est cette personne qui sait la gloire à venir et qui doit anticiper le retour du Seigneur afin de vivre cette joie éternelle. Au verset 2, Paul dit « Attachez-vous aux choses d'en haut. » Attachez-vous aux choses d'en haut. Encore une fois, ça peut se traduire par « Pensez aux choses d'en haut » ou « Ayez une disposition intérieure pour les choses d'en haut. » Est-ce que nous avons une disposition intérieure pour les choses d'en haut? Il dit « Attachez-vous aux choses d'en haut. » Mon cœur, est-ce que mon cœur a une disposition particulière pour les choses en haut? Si mon cœur a une disposition particulière pour des choses d'en haut, effectivement, au risque de me répéter, lorsqu'il arrive des épreuves, lorsqu'il arrive toutes sortes de choses, mon cœur est bien disposé, mon cœur est bien préparé. Paul dit, attachez-vous à ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va motiver votre marche sur terre. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Verset 4, quand Christ, votre vie paraîtra, qu'est-ce qui va arriver? Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce qu'on réalise cette gloire-là quand Christ va revenir? On va paraître dans la gloire de Christ. On va être avec lui. On va passer l'éternité avec lui. Je ne sais pas si je l'amène comme il faut pour vous exciter, là, pour voir vraiment comment ça va être merveilleux. On va passer l'éternité avec le Seigneur. Quand il reviendra, on sera dans sa gloire. C'est quoi qui motive ma vie? Il dit, ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre. On est dans une société où c'est facile pour nous d'apporter attention sur le titre. Ici, là, quand tu as un bon titre, là, lui, il a réussi dans la société. Quand tu as tout ce qu'il faut, les biens matériels, voilà un homme, voilà une femme qui a réussi dans la société. On porte bien plus attention au titre terrestre. Je ne dis pas que c'est mauvais. Quand on me demande ce que tu me dis, je suis informaticien. Oui, j'ai étudié en informatique, je suis informaticien. Je le dis, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça qui doit motiver ma marche sur terre pour aller au ciel? Ce n'est pas l'informatique. Aujourd'hui, on est heureux, moi et ma femme, on s'est acheté une maison. Mais est-ce que c'est ça qui va me motiver pour aller au ciel? Non. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une maison sur terre? Non. Alors, les choses terrestres ne sont pas mauvaises. On peut avoir nos maisons, on peut avoir nos chars, on peut avoir toutes les qualifications qui sont sur terre. Ce n'est pas mauvais. Mais souvent, ce sont ces choses-là qui commencent à motiver notre vie. On passe tout notre temps sur ces choses-là, plutôt que sur la parole de Dieu. La question que je me pose encore ce matin, si notre âme et notre chair étaient deux enfants qu'on nourrissait, lequel des enfants serait en santé? Lequel des enfants serait en santé? Je pense plus que c'est la chair qui sera en santé. Parce que tout notre temps, on le passe à nourrir la chair. Nos pensées, nos actions, tout ce qu'on fait, c'est pour nourrir la chair. Et quand arrive une épreuve, c'est la chair qui est bien nourrie. La chair vient avec ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Parce que l'âme a été mise de côté, n'a pas été nourrie. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. On a besoin de réaliser les vertus que nous avons en tant que chrétiens. Dieu nous a laissé sa parole. Et Dieu nous a prévu des choses au ciel. Il veut que nous puissions considérer ces choses-là. Une fois que nous les aurons considérées, ça va motiver ma marche sur terre. Je fais des pas, je fais des efforts, ça va mal, je fonce avec le Seigneur. Mon but ultime, c'est quoi? Je vais aller au ciel. Ça me console. Frères et sœurs, l'apôtre Paul avait cette tristesse à apprendre qu'à l'église de Colosse, les gens commençaient à penser toutes sortes d'affaires. Il y a plusieurs doctrines qui commençaient à tourner autour. Il a dit aux chrétiens, wow, il y a une lumière jaune là. Considérez ce qui est important pour vous. Vous là, vous êtes en train d'aller au ciel. C'est ça qui est important. Ayez les yeux fixés sur ça. Est-ce que c'est le cas pour l'église de Beauport ce matin? Nos yeux sont fixés vers quoi? Est-ce que nos yeux sont fixés au ciel? Est-ce qu'on anticipe le retour du Seigneur? C'est la question que j'aimerais nous poser ce matin. Et pour terminer, Paul continue dans les versets qu'on vient de lire tantôt, à partir du verset 5. Il dit « Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre ». Alors Paul nous encourage à faire mourir les péchés de l'ancienne vie. Le chrétien avait une vie dans le passé. Paul lui dit « Aujourd'hui, il faut que tu fasses mourir ces péchés-là. Ce n'est plus toi. Tu ne peux plus t'identifier à travers ça. L'orgueil, la jalousie, toute forme d'idolâtrie, la cupidité. Il dit « Ce n'est plus toi, là. Tu ne peux plus t'identifier à ça. Plutôt, toi, tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Tu dois te revêtir des œuvres que l'Esprit de Dieu te communique. C'est ça qui est maintenant bien pour toi. » Quelqu'un qui a les yeux fixés vers Jésus, il se bat tous les jours à faire mourir les péchés de l'ancienne vie. C'est vrai, ce n'est pas facile. On a encore les deux pieds sur terre. On aura encore des voisins qui vont crier après nous. On aura encore des collègues de travail qui vont nous énerver. On aura encore des frères qui vont nous blesser dans l'église. Des sœurs qui vont nous blesser dans l'église. On aura encore toutes sortes de choses. C'est vrai. Mais ce que Paul nous encourage, c'est sachant que nous avons les yeux fixés vers le but, continuons à nous revêtir de l'homme nouveau. Faisons des efforts avec le Seigneur. Plutôt que de le laisser tomber pour dire, le Seigneur va en prendre soin. Faisons des efforts avec le Seigneur. Ayons une disposition intérieure pour les choses d'en haut, pour ce que le Seigneur nous recommande. Et Paul est conscient, il dit, il y aura même des disputes parmi vous. Il y aura des chicanes parmi vous. Il y aura toutes sortes de choses. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Parce que si on a l'amour, on est capable de se pardonner réciproquement. Parfois, le pardon est difficile pour nous, les chrétiens. Le pardon est difficile. Paul dit, vous avez été pardonné. Pardonnez-vous aussi. Oui, vous avez me dit, ben, Justin, ouais, tu le dis, peut-être qu'il t'est pas arrivé quelque chose où tu sais que c'est pas facile de la pardonner, là. Chacun de nous vit différemment ses épreuves. Chacun de nous a peut-être une situation qu'il vit particulièrement. Oui, c'est pas facile de pardonner. Mais lorsqu'on regarde à Christ, lorsqu'on connaît le Seigneur, lorsqu'on connaît Dieu, je suis capable de faire tomber mon orgueil personnel pour la gloire de l'Évangile. Et c'est ce que Paul faisait. Lorsqu'il était emprisonné, lorsqu'on le prenait pour la cause de l'Évangile, le mettant en prison, il ne se battait pas pour dire « Non, je suis correct, je n'ai pas volé, c'est juste l'Évangile. » Il dit « Je m'en vais en prison. Si c'est pour l'Évangile, j'y vais pour la gloire de Dieu. » Est-ce qu'on est prêt à faire tomber nos intérêts personnels pour la cause de l'Évangile? Oui, faisons mourir les péchés de l'ancienne vie et revêtons-nous de l'homme nouveau. Quand les gens nous voient, ils doivent voir le Christ, son caractère et sa parole en nous. Si le chrétien doit progressivement se débarrasser de ses mauvaises actions et des habitudes, il doit aussi se revêtir des vertus qui manifestent l'image renouvelée de Dieu en lui. On se débarrasse de nos mauvaises choses, mais on doit aussi montrer de quoi nous sommes-nous revêtus maintenant avec Jésus-Christ. Plutôt seulement de dire, j'essaie de me débarrasser de mon ancienne vie, le reste, ça viendra après. Non. Montre les deux à la fois. Continue à lutter pour les péchés de l'ancienne vie. Et montre aux autres ce à quoi tu crois présentement. Que les gens voient en toi le caractère de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en voyant notre vulnérabilité face au péché, je nous encourage à nous affectionner aux choses d'en haut, de considérer l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies et vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Vous pourrez lire chez vous dans Luc, chapitre 21, à partir du verset 20, où le Seigneur nous encourage à lever nos têtes et à anticiper son retour. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une fable, c'est vrai. Jésus revient. Et quand Jésus reviendra, il me trouvera dans quelle position? Est-ce que Jésus me trouvera en chicane avec mon voisin? Est-ce que Jésus me trouvera en chicane avec mon mari, avec mon épouse, avec mon frère dans l'église? Jésus revient bientôt. C'est pas faux, c'est vrai. C'est pas une fable. Si c'était une fable, on serait pas ici ce matin. Si on est ici ce matin parce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et qu'il reviendra un jour pour chercher les chrétiens avec lui. Ayons nos yeux fixés vers cet objectif-là. Ça va nous motiver. Ça va nous permettre de régler nos problèmes. Ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions dans les situations que nous avons. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour le privilège que tu nous donnes d'ouvrir les Écritures, de lire dans ta parole, de savoir ce que toi tu veux dans nos vies. Seigneur, ce matin, tu viens de m'apprendre personnellement que ayant une place au ciel, je dois avoir les yeux fixés sur toi. Et je dois anticiper ton retour. Parce qu'en aucun cas sur terre, je peux échanger la place que j'ai au ciel pour quoi que ce soit. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à considérer, Seigneur, les choses d'en haut. À considérer ta volonté. Et aide-nous, Seigneur, à te connaître aussi, Seigneur. À savoir c'est quoi ta volonté. Qu'est-ce que tu nous enseignes dans ta parole. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te prie ce matin que tu les aides à venir à toi, à crier vers Jésus, pour que eux aussi, qu'ils puissent avoir leur place au ciel. Tu as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et chacun de nous ici ce matin a sa place ou a la possibilité d'avoir sa place réservée au ciel. Et Seigneur, ma prière ce matin est que ceux qui ne te connaissent pas puissent se tourner vers toi afin d'avoir leur place réservée et fixer leurs yeux aussi vers toi. Merci Seigneur pour l'église que tu nous donnes ici à Beauport. Ce matin, on apprenait que c'est toi qui bâtis ton église. Et merci parce que tu restes fidèle, Seigneur, et on peut compter sur ta fidélité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans notre marche chrétienne, ici-bas. Puisqu'on te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. J'aurai un petit chant d'une minute à peu près à faire écouter. J'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter ce chant-là. Et puis j'inviterai Claude aussi à venir.